L'œil de Lucie, un roman de Marielle Stamm, publié aux éditions de l'Air. Deuxième partie, suite et fin.
De Claire à Michael. Jeudi 8 mars 2001, 23h05. Objet, SOS Divan. Fichier joint, Lucie M, chapitre 3 et 4.
C'est au psy que ce discours s'adresse. Je ne sais plus à quel saint, S-E-I-N, me vouer. Pardonne-moi ce vilain jeu de mots, et aussi d'utiliser un terme qui ne peut qu'évoquer la souffrance pour toi. Peut-être pour que tu comprennes mieux à quel point il m'est difficile de retracer le trajet artistique de Lucie M, sans le dissocier des avatars psychologiques de maman. Je discours sur la perspective, les reliefs, les formes, j'en fais la clé de voûte de sa monographie, occultant l'important, l'insaisissable. Plus je pénètre dans son univers, plus j'ai l'impression de violer son intimité. Comment peut-on à la fois adorer et haïr sa propre mère? Si tu n'étais pas mon cousin, et que, pour cette raison, ton éthique nous l'interdit, je me précipiterais sur ton divan pour y retrouver mon âme. Help!
Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 3. La tentation surréaliste. En reproduisant ses traits aussi exactement que l'aurait fait un objectif photographique, Lucie M. s'était fait taxer d'hyper-réaliste. En plaquant une chambre noire à la place de son œil aveugle, elle fut traitée de néo-surréaliste. La peinture intitulée « Bombardement 1 », huile sur toile, 1964, exposée à la Galerie Greuze à Paris en 1965, allait susciter des remarques similaires. Sur un fond de ciel orange, des tentures de deuil, ceinturées par de larges embrasses argentées, flottent au-dessus de l'horizon et semblent emportées par un vent furieux. Un macaron portant la lettre O est fiché au sommet du rideau. Des petits motifs de couleur acier sont rangés régulièrement sur le tissu blanc, comme s'il en était imprimé. En s'approchant de plus près, on voit qu'il s'agit de mini-bombardiers stylisés en plein vol. Sur le sable, une porte éventrée bat dans ses gonds sous la violence d'une vague. Une petite table est dressée dans l'attente de messages de condoléances. Une main anonyme a déposé un bouquet de marguerites. Le critique d'art du Figaro accusa Lucie M. d'imiter Magritte. Il compara les bombardiers à l'arrêt sur les voiles funèbres aux nuages qui s'effilochent sur le dos d'une colombe, comme si l'oiseau faisait partie du ciel, sur une des toiles de l'artiste belge. Les inconditionnels de Lucie M. rétorquèrent que sa métaphore était beaucoup plus forte, à la fois dans le traité des touches de couleur et dans la gravité de la symbolique. Ils rappelèrent que l'artiste avait elle-même souffert des bombardements lorsqu'elle était fillette. Elle avait été bouleversée par la disparition de compagnons de jeu, victimes des bombes ou des rafles nazies. La tenture blanche au bombardier menaçant, surmontée du macaron où pleure l'initiale de l'enfant défunt, fut reproduite dans de nombreuses revues de l'époque. Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 4. L'art baroque revisité. Oscillant toute sa vie d'artiste entre figuration et abstraction, Lucie M. s'est vue reprocher une certaine discontinuité dans son œuvre. Pour elle, ses connotations n'avaient pas de sens. Les formes n'étaient que le moyen, disait-elle, de restituer la profondeur de l'invisible, libre aux spectateurs d'imaginer leur signification. Toujours en quête de cette perspective que ses yeux ne lui permettaient pas d'appréhender, elle reprit son travail sur les losanges noirs et blancs, les amenuisant progressivement vers le point de fuite à l'horizon. Les variantes autour de ses échiquiers, salon familial 1, 2 et 3, dessin au fusain 1963, classées par certains sous l'étiquette d'art abstrait, ne sont en fait que les gammes d'un exercice qu'elle allait répéter des centaines de fois. Par la suite, sur les conseils de son compagnon passé maître dans l'art du trompe-l'œil, elle réinterpréta, à sa manière, les toiles des grands maîtres de l'art baroque. Elle passa ainsi plusieurs semaines à reproduire la voûte de l'église Saint-Ignace, à Rome. Plafond rose, peinture à l'huile sur toile, 1964, collection Zurbaran. Elle déforma les moulures, brisa les fausses colonnes, remplit les conques de liquide doré, épaissit les jambes des archanges, accentua les gestes de malédiction des prophètes. En écrasant les couleurs sur sa palette, elle s'écriait rageusement à l'intention des chérubins qui volaient au-dessus de sa tête. « On me traite de néo-surréaliste, je serai aussi néo-baroque. » Elle se réappropriait les chefs-d'œuvre tout en forgeant son style, ample et voluptueux, personnel et inimitable.
De Michael à Claire, dimanche 11 mars 2001, à 8h. Sujet Re-SOS Divan.
Dear Claire, je ne sais si c'est le psy ou le cousin qui te répond, peut-être les deux à la fois. À défaut de divan, le psy ne peut que te conseiller de poursuivre l'étude du parcours artistique de Lucie M. Cette démarche purement formelle t'aidera à aller plus loin dans ta propre analyse. Le cousin sera plus bavard, ce qui pourrait t'orienter et compléter tes recherches. Dad est rentré. Il a assisté à un congrès d'ophtalmologues à Lisbonne, où il a présenté les derniers résultats cliniques de ses recherches sur les implants rétiniens. Il a passé 2 mois sur un voilier à faire du cabotage dans les îles grecques. À Dijon, il avait rendez-vous avec le conservateur du musée archéologique. Sur le chemin du retour, il a fait un crochet au Paraguay pour fêter les 90 ans de son vieil ami Pierre, alias Rodolphe. Bref, il continue à parcourir les continents et les mers. Il est comme Ulysse, il a encore et toujours la bougeotte, disait ma mère lorsqu'elle avait fini d'énumérer les escales lointaines de son époux. Both cousin and psychiatrist send you their love.
De Claire à Michael, mardi 5 juin 2001 à 9h06. Objet, chez Escher, fichier joint. Lucie M., chapitres 5 et 6, jeu d'ombre 12 à 16.
Hi. J'ai passé le week-end de Pentecôte à Beaucèdre. Tante Sarah est soulagée. Elle peut rester dans la villa jusqu'à la fin de l'année. Elle n'a pas rempli la piscine. C'est trop d'entretien pour moi toute seule, dit-elle. Un peu gênée, elle m'a remis 5 nouveaux chapitres. Je les ai dévorés sur le banc, en frémissant à l'idée des bulldozers qui vont bientôt éventrer le jardin. Est-ce ta séance de thérapie via Internet? Plus les éléments tragiques se rapprochent dans le temps des souvenirs, plus je me sens prête à les affronter. La plume est un bon moyen de chasser les démons. En axant l'essentiel de la monographie sur le travail de la perspective, je m'appuie maintenant sur du concret. Je n'ai même pas flanché en mentionnant le séjour de Lucie à Rome. Et pourtant, cette nouvelle fugue de maman, elle ne nous avait pas donné signe de vie pendant 13 semaines, avait mis en miettes le bonheur fragile retrouvé après son premier retour. Papy M avait beaucoup admiré le plafond rose et lui avait suggéré d'aller rendre visite à Moritz Escher, dont il avait fait la connaissance alors que ce dernier effectuait un voyage en Méditerranée. Après une courte escale parisienne, maman est repartie pour la Hollande, sans s'excuser de sa désinvolture auprès de Zurbaran, ni se soucier de savoir qui s'occuperait de moi pendant son absence. La question n'était plus à l'ordre du jour. Nous avions appris à vivre, ou plutôt à survivre sans elle. Je t'embrasse. Claire.
Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 5. Le monde des chairs. Le voyage de Lucie M. en Italie fut suivi, d'un séjour en Hollande. Lorsqu'elle arriva à Barne, elle fut accueillie, avec beaucoup de chaleur, par Moritz Cornelius Escher, auprès de qui son père l'avait recommandée. Escher lui montra une estampe exécutée à Marseille. Le pont transbordeur, qui enjambait le vieux port et fut détruit par les Allemands en 1941, y figure au premier plan. À travers la ferraille, la basilique de Notre-Dame de la Garde est silhouettée, perchée sur sa colline. Le vieux peintre se prit d'amitié pour cette très jeune femme au regard singulier. Il lui enseigna le travail de la xylogravure, le maniement des petits canifs et des gouges. Sa virtuosité était étonnante. Il lui expliqua sa technique de remplissage périodique d'un plan, un art qu'il sut pousser jusqu'à ses extrêmes. Lucie M. était étonnée par ses tricheries, ainsi qu'il nommait les métamorphoses. Qu'un simple damier se transforme successivement en un dansant, en étoile, en ruche, en abeille et enfin en oiseau, lui semblait magique. Son estampe préférée s'intitulait « Jour et nuit ». Deux vols d'oiseaux, un blanc et un noir, se croisent au-dessus de champs en losange, tandis que les volatiles noirs se dirigent vers le jour et des maisons en pleine lumière, les blancs volent vers un village, de nuit, fidèlement symétrique. Les translations et les déformations s'effectuent à la fois sur le plan horizontal et sur l'axe vertical, où les losanges, figurant les champs, deviennent eux-mêmes oiseaux. Explorateur de mondes impossibles, Escher était obsédé par la dualité de l'espace, sous toutes ses formes, le haut et le bas, le devant et le derrière, le convexe et le concave, l'intérieur et l'extérieur. Lucie M. le suivait avec bonheur dans ses pérégrinations. Au cours d'un séjour à Marseille, elle entreprit d'adapter à sa manière, ainsi qu'elle l'avait fait pour le plafond de Saint-Ignace à Rome, les élucubrations de son maître hollandais. Sans se préoccuper d'en obtenir l'autorisation, elle grimpa jusqu'aux corniches qui surplombent la nef de Notre-Dame de la Garde, rampa à plat ventre dans les combles et, durant tout un après-midi, combattant son vertige, elle dessina la vue plongeante qu'elle obtenait de là-haut. Puis, sans plus s'inquiéter des quelques fidèles venus se recueillir dans la basilique, elle se coucha sur la dalle afin de reproduire les anges en mosaïque de la coupole du chœur. « J'ai vu l'infiniment haut et l'infiniment bas », affirma-t-elle à Escher lorsqu'elle lui montra ses deux esquisses. Nadir et Zénith, deux dessins grattés, 1964, Musée Jenisch, Vevey. Or, plus elle travaillait avec le maître, plus elle était gênée par l'aspect trop cérébral de ses estampes. Il lui avait avoué qu'il caressait le vœu d'illustrer le thème de la porte magique, mais qu'il n'avait pas encore trouvé de solution à son projet. Il voulait dessiner une porte qui n'a aucun sens. Elle ne donne accès nulle part, et on peut facilement en faire le tour. Mais dès qu'elle s'ouvre, elle découvre un paysage enchanteur, fait d'étangs translucides, de rivières de diamants, de collines couvertes de fleurs. Reprenant ses crayons, Lucie M. exécuta ce rêve sans apparente difficulté. La porte, en tournant sur ses gonds, se transforme, selon les lois des chairs, en tourniquet à hélice où les images oniriques défilent à l'intérieur de chaque petite pale. Sans raison apparente, Lucie M. baptisa cette œuvre « Cadeau d'anniversaire ». Crayon sur papier vélin, 1965, collection particulière. Il offrit à Moritz. Plus tard, lorsqu'elle examina attentivement le bois sur lequel son maître et vieil ami était en train de graver sa représentation de l'infiniment petit, elle s'abstint de lui révéler son secret. Lucie M. ne percevait pas le relief. Mais cette cécité lui avait permis de développer un don de double vue à l'intérieur d'elle-même. Elle pouvait imaginer chaque terminaison nerveuse, chaque cône, chaque bâtonnet enfoui dans sa rétine, mieux qu'un microscope électronique. Chaque fois qu'elle s'imprégnait de ce kaléidoscope de visions et de sensations, son pinceau imprimait la félicité sur la toile et des écorchures à son âme. Elle recréait alors les fantasmagories de Victor Brauner, son autre vieil ami,
dont les pinceaux jaillissent des orbites pour mieux rendre l'indicible.
Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 6. Le bestiaire. Les leçons des Cher et de Brauner furent à l'origine d'une production foisonnante, débordant d'imagination, de fraîcheur et d'humour. Du premier, Lucie M. avait aimé les reptiles émergeant de la surface plane d'un cahier de croquis, prenant du volume en grimpant sur un échafaudage imaginaire fourmi de livres et d'une équerre atteignant, triomphant, le sommet d'un polyèdre, puis basculant dans un mortier pour recouvrir leur platitude sur le carnet d'esquisses. Elle riait des animaux farfelus du second, le coq chevauchant un croissant de lune ou les oiseaux persifleurs. Elle inventa son propre bestiaire, mariant la rigueur de l'un avec la fantaisie de l'autre. Elle métamorphosa une série de grenouilles à la gueule hilar en brochettes appétissantes destinées à la friteuse. Torture, estampe 1965, achetée en 1998 par le MAC, Musée d'art contemporain de Marseille. Elle contraignit des vers à soie débonnaires à des contorsions impossibles pour qu'ils se mutent en de vulgaires pierrides du chou, en train de s'accoupler sur de fragiles brindilles. Bombardement 2, estampe 1965, Musée de la soie à Saint-Hippolyte-du-Fort. Elle reprit le caméléon des chairs et entortilla un phallus interminable en lieu et place de langue et de queue autour des branches de l'étoile où il était emprisonné. Caméléon sans âme, gravure sur bois, 1966, collection de l'artiste.
De Michael à Claire, dimanche 26 août 2001 à 23h45. Sujet, caméléon.
Darling, merci pour ton dernier et copieux envoi. Je te sens maintenant, dans ton sujet, plus à l'aise que dans les premiers chapitres. Connaissant très peu et cher, et je suis loin d'être le seul, je n'avais pas réalisé combien son travail avait marqué Lucie M. Dad, à qui j'en ai parlé, a ri et m'a demandé « Qu'est-ce que vous fabriquez, Claire et toi ?» à chatter sans arrêt sur Internet. Pour satisfaire sa curiosité, je lui ai montré les premiers chapitres de ta monographie. J'espère que tu ne m'en veux pas. Il est resté très songeur à l'évocation du caméléon emprisonné dans une étoile. Il m'a rappelé les propriétés paraboliques de l'œil de ce gros lézard qui, contrairement aux idées reçues, ne change pas de couleur à tout bout de champ. Tu connais la curiosité de Dad. Lorsqu'il s'est rendu à Madagascar, il a charcuté les yeux d'une de ces pauvres bêtes pour étudier la suspension des muscles qui permettent cette surprenante mobilité à 180 degrés. Il a rencontré là-bas un sorcier qui lui a énuméré tous les symboles attachés à cet animal. Outre une fonction solaire qui le transforme en divinité supérieure, le caméléon s'adapte à toutes les circonstances, ce qui peut le rendre versatile, voire hypocrite. Avec sa queue préhensile, il est capable de s'approprier le bien d'autrui. Avec sa langue protractile et gluante, il peut happer sa proie à distance. Bref, pas très recommandable ce caméléon qui semble tellement fasciné Dad. Quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de la transformation sexuelle que lui fait subir Lucie M. sur son estampe, il ne m'a pas répondu. Miss you, Mike. P.S. Envoie-moi la suite du récit de Sarah. C'est une merveilleuse drogue pour m'endormir en pensant au jardin de beaux cèdres et à nos étés d'enfance.
De Claire à Michael, jeudi 1er novembre 2001 à 24 heures. Objet, Calvin. Fichier joint, Lucie M., chapitres 7 et 8. Jeu d'ombre 17 à 20.
Mission accomplie. Voici le travail estival de Tante Sarah. Transmission de pensées incroyable. Elle aussi a brodé sur le thème du caméléon. Décidément, nous sommes en pleine élaboration d'un opus à 6, voire 8 mains. J'ai rajouté oncle Raphaël au nombre des auteurs, compositeurs, interprètes. En revanche, je suis à côté de la plaque lorsque notre tante évoque la prédestination. Qui se soucie encore de ces vieilles querelles entre protestants et catholiques? En bonne agnostique, j'ai dû me rendre sur la toile et interroger Google pour éclairer ma lanterne. Voici les paroles implacables de celui qui a terrorisé des générations de Genevois. Nous appelons prédestination le conseil éternel de Dieu, par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire d'un chacun homme. Car il ne les crée pas tous en pareilles conditions, mais ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à éternelle damnation. En d'autres termes, si tu ne bénéficies pas de la grâce de Dieu, tu es bon pour l'enfer. J'ai grand peur de figurer pour l'éternité parmi ces malheureux damnés. Sais-tu que tante Sarah, qui se préoccupe peut-être plus que moi de son salut, s'est convertie au protestantisme? Son cantique préféré, comme un cerf altéré brame, pourrait bien, à défaut de me ramener dans le droit chemin, m'orienter pour un prochain chapitre de la monographie. Mystique et paradoxale, Lucie M, que révoltent les choix de l'Éternel, mais qui aspire à contempler sa face, que terrorise l'œil de Javé, mais que hante le sublime et l'ineffable. Je m'écroule. À plus. C.
Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 7. Le sujet est l'objet. La signature de Lucie M. était faite de jambages enfantins surmontés, au-dessus du i, d'un petit œil irisé comme une bille. L'artiste la plaçait toujours dans un endroit insolite sur ses toiles, rendant parfois la tâche ardue aux experts chargés de traquer les faux qui circulèrent beaucoup dans les galeries après sa disparition, abondamment commentée par les médias en 1983. Ses œuvres avaient déjà acquis une certaine cote, et les faussaires sautèrent sur l'occasion pour tenter d'écouler, dans les galeries, une production très abâtardie par rapport à l'original. Toute sa vie, l'artiste eut à cœur de mettre ce point sur ses i. L'œil, source de lumière et source de connaissance, est au cœur de son œuvre. À l'instar de son vieil ami et cher, elle ne se lassa jamais d'analyser cette dualité. À la fois soleil et lune, amour et sagesse, l'œil explore le passé et l'avenir, le visible et l'invisible. Certes, nombre d'autres peintres l'avaient précédée dans ses fantasmes. Elle recherchait avant tout, dans leurs œuvres, le symbole caché. Odilon Redon,
pointant vers l'infini un œil ballon,
sous lequel est accrochée une tête coupée qui tient lieu de nacelle. Frida Kahlo, peignant le troisième œil sur le front de Diego Rivera, l'amour de sa vie. Escher, dessinant le crâne de la mort au centre de la pupille d'un œil monumental. Picabia, scandant le temps qui passe sur un métronome dont l'aiguille est dotée d'un ocelle. Ou encore Diane Moseley, constellant Dieu monstrueux, le costume de scène du chanteur Freddie Mercury, métamorphosé en Argos moderne. Elle interpréta à sa manière le viol de Magritte, un tableau déroutant où, sur un tronc féminin devenu visage, les seins figurent à la place des yeux. Le nombril est une imperceptible narine. Le triangle buissonneux du pubis singe une bouche dédaigneuse.
Avec « Le sujet et l'objet »,
huile rehaussée de gouache sur toile 1968, montrée pour la première fois durant l'exposition « The Unresponsive Eye » ou « MoMA » de New York, Lucie M. réinterpréta et rebaptisa, selon une démarche qui lui était familière, l'origine du monde de Courbet. Elle enfouit l'image de son œil livré à la divagation, au cœur de la fourrure intime de la femme abandonnée à son plaisir. La critique de l'époque fut partagée. Certains n'y virent rien d'autre qu'une provocation obscène. Il s'en trouva Mémant, qui cita la célèbre remarque de Duchamp. « Je veux saisir les choses de l'esprit de la même façon que le pénis est saisi par le vagin. » Lucie M. refusait de répondre aux questions que les journalistes mal intentionnés lui posaient à propos de son « délire pornographique ». Elle se bornait à dire « Tout est dans le titre, et l'œil est à la fois le sujet et l'objet. » Elle était déjà ailleurs, concentrée sur ce qui allait devenir une des œuvres majeures de toute sa vie d'artiste, et à laquelle elle travailla pendant 5 ans. Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 8. Le sépulcre de Caïn. Conscience. Huile et réau de gouache sur toile de jute. 1969-1973. Et diverses esquisses au crayon et au fusain, est une toile monumentale de 4,20 m de haut sur 7,50 m de large. Avant de commencer à peindre, l'artiste exécuta de très nombreux dessins préparatoires, dont la plupart ont été acquis par des musées étrangers. Compte tenu de ses dimensions, le tableau final ne trouva pas d'acheteur, et il est toujours propriété privée de l'artiste. S'inspirant du poème de Victor Hugo, Conscience raconte le destin tragique de Caïn pourchassé par l'œil divin après le meurtre de son frère Abel. Pour peindre sa toile gigantesque, Lucie M. avait loué un immense grenier derrière la Bastille. Malgré la taille de cet atelier improvisé, elle devait garder le jute replié et ne le déroulait qu'au fur et à mesure. Elle peignait à genoux, mètre après mètre, cachant la partie peinte dès qu'elle avait séché. Elle-même ne découvrit l'ensemble dans sa totalité que lorsque l'œuvre fut entièrement terminée. Mais elle prétendait que c'était ainsi qu'elle travaillait le mieux. « Je vois mieux l'invisible », affirmait-elle sombrement à ceux qui se hasardaient à interrompre son travail. Hugo raconte que, pour protéger leur père, les fils de Caïn construisirent successivement un mur de bronze, puis une ville énorme et surhumaine, dont les murs avaient l'épaisseur des montagnes. Ils mirent ensuite l'aïeul dans une tour de pierre. Lucie M. se souvint des leçons de son maître hollandais lorsqu'elle s'attaqua à la monstrueuse muraille. Son relief est saisissant. De même, l'étude Nadir, effectuée à travers les oculis percés dans les coupoles de Notre-Dame de la Garde, voir chapitre 5, lui servit pour situer le point de fuite au plus profond de la tour où est enseveli Caïn. La virtualité de cet espace, mise en valeur par certains traits à peine esquissés, renforce l'idée que celui-ci est purement mental. Le menton soutenu par sa main, comme le penseur de Rodin, le meurtrier d'Abel est assis dans son sépulcre. Ses fils ont roulé la pierre au-dessus de sa tête. Il se retrouve, seul et nu, face à son juge et face à lui-même. L'œil de Dieu est à la fois au-dessus et au-dessous de lui, au zénith et au nadir. Au sommet de la toile et au fond du cloaque où il se reflète, conformément à l'implacable chute de Victor Hugo, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Double malédiction, car le père de Jubal, de Jabel, d'Enoch et de Tubal-Caïn, retrouve aussi sa propre image reflétée dans la pupille divine. Empreinte d'une dimension métaphysique, Conscience préfigure les dernières œuvres connues de l'artiste.
Michael à Claire, vendredi 25 janvier 2002, à 7h16. Objet, le sujet est l'objet.
Illusion. Le critique qui a cité Marcel Duchamp au sujet du tableau « Le sujet et l'objet » a peut-être choqué, mais il l'a fait fort à propos. Durant ton séjour aux îles Marquises, tante Sarah m'a fait parvenir un souvenir provenant de nos grands-parents. Elle me demandait de le transmettre à Dad. Il s'agissait de deux disques en carton achetés par Papy M à l'exposition du concours Lépine de 1935 au grand prêtre Dada. Tu sais que ce dernier n'avait pas que des jeux innocents. Les rotoreliefs en question créent des illusions d'optique que je me suis gardé de décrypter pour Tante Sarah. Lorsque le disque Corolle est entraîné dans une rotation rapide, ce qui ne ressemble d'abord qu'à un œil devient un sein au mamelon tremblotant, puis une grotte assimilable à la cavité utérine, allusion sans équivoque à la pénétration sexuelle. Les oscillations du cercle deviennent pulsions obsessionnelles et ce va-et-vient évoque simultanément l'acte copulatoire. La petite a dû jouer en cachette avec les objets du père lorsqu'elle dessinait seule durant de longs après-midi dans le salon familial. Ces images se seront gravées dans son inconscient. Elle les aura, par la suite, associées à d'autres scènes d'ordre sexuel dont elle aura été le témoin involontaire bien avant son adolescence. Love, Mike.
De Claire à Michael, vendredi 13 décembre 2002 à 23h05. Objet, Sainte Agathe. Fichier joint, jeu d'ombre 21 à 23.
Dear Dr. Freud, tu vas pouvoir laisser libre cours à tes interprétations psychanalytiques en lisant la suite du récit de Tante Sarah et de la monographie de Lucie M. Il me semble qu'on pourrait dire, à propos de nos deux écrits, qu'il s'agit d'inséminations croisées, pour utiliser une terminologie qui t'est familière, et rester sur le même registre que toi. Tante Sarah aurait fait une grande tragédienne. Ses souvenirs me paraissent très amplifiés. Lorsque je me penche sur les quelques photos jaunies prises par l'oncle de Germaine à l'issue du célèbre mystère de Sainte Agathe et de Sainte Lucie, vierges et martyrs, je ne découvre que les visages arrondis et souriants d'adolescents de l'après-guerre. Quant aux robes pseudo-renaissance des deux héroïnes, elles ressemblent à s'y méprendre à des nippes coupées dans de vieux rideaux. Sainte Agathe, toile sur laquelle maman a passé toute l'année 1975, annonce de manière beaucoup plus dramatique le grand malheur qui nous a frappés la même année. Pardonne-moi de l'évoquer à nouveau, mais je ne peux m'empêcher de croire que ta mère avait eu la prémonition de la maladie qui devait l'emporter si rapidement. Pourquoi a-t-elle choisi ce sujet pour monter son drame mystique? Les spectateurs, encore vivants de ces scénettes semi-burlesques, ont-ils aussi fait le rapprochement? Chère tante Agathe, qui était si fière de sa jolie poitrine, comme elle a dû souffrir, à la fois dans sa chair et dans sa tête, de cette double mutilation. 27 ans ont passé déjà, et je me sens encore orpheline de celle que je considérais comme ma deuxième mère, même si, lorsqu'elle m'embrassait, j'avais parfois l'impression que c'était sa petite sœur Lucie qu'elle serrait dans ses bras. L'impression également qu'elle souffrait d'une blessure encore plus profonde que celle de son opération. Pourquoi ne se sont-elles jamais revues depuis le jour de son mariage? Pourquoi les destinées tragiques des deux sœurs nouent-elles mon cœur dans un réseau de fils si ténus que je n'arrive pas à les démêler? Affection, Claire. P.S. Tante Sarah, qui n'est pourtant pas très superstitieuse, m'a fait parvenir un porte-bonheur. Devine, c'est un œil de Sainte Lucie, dont c'est la fête, aujourd'hui. On les trouve dans certains coquillages, genre palourdes, sur les plages de l'Estac. Pas très ragoûtant, cet opercule. Un tournicoton rougeâtre qui aurait fait le porte-bonheur de Duchamp. En trouve-t-on dans vos délicieux clams, à Baltimore?
De Claire à Michael. Dimanche 15 décembre 2002 à 10h08. Objet, Re Sainte Agathe. Fichier joint, Lucie M, chapitre 9.
Sorry, acte manqué peut-être. J'ai oublié de joindre le chapitre annoncé dans mon dernier email. J'avais décidé de te taire le trouble dans lequel j'étais. Impossible. Les vannes se sont ouvertes et je ne peux plus les refermer. J'ai tenté de décrire Sainte Agathe le plus sobrement possible. Mais comment ne pas oublier l'envers du décor? Le souvenir de la gestation du tableau est encore tellement vivant dans ma mémoire. J'ai entendu maman gémir des nuits durant. Elle claquait des dents, semblait se tordre de douleur et des larmes coulaient sans relâche de ses yeux erratiques. Zurbaran la prenait dans ses bras, la berçait, tandis qu'elle répétait dans un délire presque inaudible « Caïn et Abel, c'était son frère. Lucie et Agathe, c'était ma sœur. Elle meurt par ma faute. Je l'ai tuée. » Tout basculait dans sa vie. Elle venait de mettre la dernière touche à sa peinture lorsqu'elle apprit que sa sœur était en train de mourir. La nouvelle lui était parvenue très tard. Trop tard. Mamie M lui en voulait terriblement d'avoir rompu définitivement avec tante Agathe, malgré toutes les tentatives de réconciliation en provenance de sa fille aînée. Tu ne connais peut-être qu'une partie de la suite. Quand Lucie est arrivée à Baltimore, on lui a dit que sa sœur n'était déjà plus en état de la reconnaître. Elle a alors demandé qu'on les laisse seules. Qu'a-t-elle murmuré à l'oreille de ta mère? À son retour à Paris, son regard avait une fixité qui ne la quitterait plus que rarement. Elle m'a tendu une petite bille, une vulgaire agate bleue aux reflets irisés. Puis elle m'a raconté que la main, qui reposait fermement sur le drap, lui avait fait signe. Elle s'était ouverte et la bille avait roulé sur le lit. Les yeux toujours clos, Agathe lui avait dit « Tu la donneras à Claire ». Maman a ajouté que cela avait été ses derniers mots. « Missy Willott, C. »
Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 9. Sainte Agathe. Au début de l'année 1975, Lucie M. entama la toile certainement la plus originale et la plus forte de toute son œuvre. Malgré l'érotisme qui s'en dégage, le commissaire chargé de la première rétrospective consacrée à l'artiste la sélectionna pour l'affiche annonçant l'exposition. Sainte Agathe, huile sur toile, 1975, collection Zurbaran, ne rappelle que de très loin l'œuvre éponyme de Giambattista Tiepolo. Lucie M. a suspendu la jeune chrétienne sous la branche d'un arbre, une jambe enfilée à travers un anneau de gymnastique. Le deuxième anneau, un cercle nimbé d'une lumière diffuse, représente l'auréole de la sainte. De longues mèches de cheveux s'enroulent autour des cuisses et de la poitrine ensanglantée de la sainte, et lui tiennent lieu de vêtements. La pointe de la chevelure balaie le sol, pareille aux franges d'un tapis de prière perçant. Renversé vers l'arrière, le menton en figure de proue et les yeux dirigés vers un dieu invisible, le visage de sainte Agathe exprime un bonheur extatique, proche de l'orgasme. Souvenir des métamorphoses des chairs, les deux saints, qui viennent d'être sauvagement tranchés, sont posés sur la branche de l'arbre, mais ils ont été transformés en colombes. Sur la tête des oiseaux, on aperçoit un dernier vestige des saints transfigurés, le bout insolent du mamelon. Vu de dos, une fillette de petite taille figure à gauche du tableau. Elle se promène dans une allée bordée d'acanthes, qui deviennent des cierges à mesure qu'elle avance vers le fond de la toile. Toutes les recherches de l'artiste se trouvent réunies dans ce tableau. Réalisme dans le rendu des textures, perspective et profondeur, anamorphose et symbole, expression du divin. La critique en donna diverses interprétations, parfois contradictoires, mais elle fut unanime à saluer la naissance d'un chef-d'œuvre. Lucie M. reçut plusieurs offres d'achat, notamment de la part d'un mystérieux habitant de Catane, dont la sainte était originaire. Mais, malgré les soucis d'argent qu'elle connaissait durant cette période, elle refusa de se séparer de sa toile.
De Michael à Claire, mardi 19 décembre 2002 à 22h19. Sujet: tous coupables.
When Mom died, all of us guilty. Quand Mom nous a quittés, la culpabilité multipliant par 10 la souffrance. Nous étions tous concernés. Coupable, moi, son fils, d'être un jeune chien savant. Sophomore à la Boston University, préférant les dates et les flirts poussés aux visites à l'hôpital. Mom m'y avait attendu en vain, comme elle avait espéré les retours de Dad durant sa courte vie de jeune femme immigrée dans un pays qui n'était pas le sien. Coupable, papy et mamie M, recroquevillés dans leur chagrin et se battant la coulpe, acteurs d'aventures mesquines dont Dieu les punissait en leur enlevant prématurément leur fille aînée. Coupable, tante Lucie, prostrée et lointaine, auteur de forfaits réels ou imaginaires, et dont je ne saisissais pas encore la portée. Coupable Dad, d'adultère et d'abandon. Je l'observais, Dad, beau comme un héros grec frappé par le destin. Que se passait-il alors sous ce front large et puissant? Que révélait cette superbe qui m'impressionnait tant depuis mon enfance? Comment imaginer que, derrière ce masque, la colonne vertébrale se délitait, le monde s'écroulait? Coupable, nous tous présents, coupable d'être vivants alors qu'elle était morte. Coupables et médusés, comme si le temps s'était arrêté au bord de cette tombe sous le soleil de Baltimore. Méduse, l'image de la culpabilité. Persée devra lui couper la tête pour maîtriser ce sentiment morbide et paralysant. Il pourra alors se regarder lui-même avec lucidité dans un miroir non déformant. Mais auparavant, il devra dérober l'œil unique que se partagent les trois grès, les trois sœurs hideuses et malvoyantes des Gorgones, dont Méduse aux cheveux nattés de 1000 serpents et la reine. Persée, fils de personne. P.S. 27 years since she died. As usual, when we get sad, Dad and I, we went to eat crabs in a harbor. Nous avons eu beau chercher dans les coquilles de clams amoncelées dans nos assiettes, il n'y a pas de porte-bonheur ni d'œil de Lucie sur les rivages atlantiques.
De Claire à Michael, mardi 4 février 2003 à 14h01. Objet, errance. Fichier joint. Lucie M, chapitres 10 et 11.
Ouf, j'en ai terminé avec la monographie de Lucie M. Curieusement, le recul indispensable auquel, dans un premier temps, j'ai dû m'astreindre, est devenu presque naturel aujourd'hui. J'arrive désormais à repenser à ces 10 années d'épreuves sans ressentir de douleur apparente. Et pourtant, que de souffrances dans notre trio devenu infernal. Maman, repartant dans ses errances et ses absences, même lorsqu'elle refaisait surface à la maison, moi, plongé dans toutes les tentations d'une adolescence mal contrôlée, zourbarant, sombrant dans le mutisme et se jetant à corps perdu dans son travail. Dans le cadre d'une monographie, et a fortiori s'agissant d'une artiste vivante, il était difficile de s'attarder sur l'importance des troubles psychologiques de Lucie M. sans aborder sa sphère privée. Bien sûr, on aurait pu donner les clés d'une partie de la symbolique cachée dans la plupart de ses œuvres. Cela aurait-il changé le regard du spectateur, de l'amateur? Les journaux n'ont pas manqué d'étaler, dans leur page People, des photos de Lucie M. Nouvelle Greta Garbo, le visage caché derrière des lunettes noires comme l'actrice mythique, en train de déchirer ses derniers pastels dans le bar d'un grand hôtel de Nice. Ces mêmes journaux ont donné, photo bidon à l'appui, les explications les plus saugrenues de sa disparition en 1983. Elle se serait accoquinée avec un gourou malgache, appelé Raja, avec lequel elle vivrait encore dans une paillote, sur les collines de Fianarantsoa, fleuries de jacarandas. Elle serait rentrée au Carmel, où elle s'abîmerait dans la prière. Certains allèrent même jusqu'à affirmer qu'elle s'était suicidée dans ce même palace niçois où elle avait suscité plusieurs scandales. Personne ne soupçonna la vérité. Et ce n'est ni Zourbaran ni moi qui allions vous trahir, oncle Raphaël et toi. ta Clairette. P.S. Tante Sarah s'est payée une méchante grippe. Elle a promis de m'envoyer les derniers chapitres de Jeux d'ombre avant la fin du mois.
Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 10. Jeux de cartes et jeux funèbres. La mort de sa sœur, Agathe D., fut une très grande épreuve pour Lucie M. On a raconté qu'elle avait peint Sainte Agathe dans une sorte de transe prémonitoire. Les toiles suivantes sont toutes imprégnées du deuil qui venait de la frapper. Jeux de cartes, huile sur toile avec réaux de gouache, 1976, MoMA, New York, représente deux jeux étalés comme des éventails et inversés. Une seule carte y figure, toujours la même, 104 fois répétée. La dame de pique, avec, en symétrie, non pas une autre dame de pique comme dans un jeu de cartes ordinaire, mais la dame de cœur. La première a les yeux ouverts, la seconde les yeux clos. Et tandis que l'éventail se déploie, les figures se transforment. La dame de cœur devient la dame de pique et inversement. Une deuxième anamorphose se superpose à la première. Les traits des visages sont différents selon leur position dans le plan. Paisible lorsque le visage est vertical, déformé par le délire de la passion lorsqu'il est renversé et à 180 degrés de son homologue. Retournement des morts, xylogravure, 1977, Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou, est plus complexe à déchiffrer. Deux femmes enlacées sont emportées dans un étrange ballet saphique. L'une porte une tunique romaine. Le corps de l'autre, tel une momie, est entouré de bandelettes dont une partie gît déroulée sur le sol. Bandelettes et tuniques se mêlent étroitement, tandis que les visages disparaissent dans une brume vaporeuse, selon la technique chère à Vinci du sfumato. Un sorcier noir et grimaçant rythme la danse sur un tambour. Ce personnage, et le titre donné par l'artiste à cette estampe, laisse à penser qu'il s'agit là d'un rituel animiste, auquel aurait assisté l'artiste au cours d'un séjour à Madagascar. Les défunts y sont vénérés par leurs descendants d'une curieuse façon. On les extrait de leur cercueil, on les revêt d'habits mortuaires propres, on les berce dans les bras, on les entraîne dans des rondes fiévreuses. Des mélopées funèbres et des libations fortement alcoolisées accompagnent ces chorégraphies d'un autre type. Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Chapitre 11. Dessiner le soleil. On se souvient qu'un premier séjour en Égypte et la visite des pyramides de Gizeh avaient été à l'origine d'études de l'artiste sur la représentation du volume dans l'espace. Lucie M. avait émis l'idée que le moule de la spatialité est une géométrie abstraite, et lorsque la matière s'y infiltre, elle se jette dans les filets de la forme. Le visuel et le formel sont donc semblables, et le génie de l'art est de révéler cette similitude. Interview parue dans le magazine L'Œil en novembre 1962 à propos de l'installation Khéops à Marseille. En revenant de Madagascar, l'artiste s'arrêta en Égypte pour visiter le musée du Caire. Elle était fascinée par les sarcophages ornés de l'œil protecteur Oudja, truchement nécessaire aux défunts pour contempler le monde des vivants. Elle était hypnotisée par Horus, fils de Ra, le dieu du soleil, que symbolise le cobra à l'œil dilaté et brûlant, dressé sur le front des pharaons. Littéralement envoûtée, Lucie se mit en tête de dessiner le soleil. Faut-il parler d'hallucinations suicidaires, de rêves métaphysiques, de rites propitiatoires ou simplement d'imprudence? Au cours d'un week-end au bord de la mer Rouge, elle contempla longuement le disque à son zénith. Quand elle rentra à son hôtel, une partie de sa rétine avait été irrémédiablement brûlée. sa vue ayant considérablement baissé, Lucie utilisa de plus en plus la technique du sfumato. Le dessin y perd en précision, mais l'atmosphère de mystère est renforcée. On a l'impression que plus ses tableaux deviennent évanescents, plus l'artiste se rapproche de son but, retenir l'essentiel par le biais de l'épure. Mais, tandis qu'elle estompe la forme, elle fait éclater la couleur. Elle gicle les jaunes, les carmins, les orangés. Elle fait couler sur sa toile de grands aplats lumineux, presque aveuglants. Puis les retravaille avec des pigments d'or fin. Jamais satisfaite, elle supprima beaucoup de ses dernières œuvres, ce que tous les amateurs de sa dernière manière déplorent aujourd'hui. Elle n'hésitait pas à les qualifier de jolis chromos, de barbouillage, de croûte, allant même jusqu'à évoquer le trash painting. Elle fit aussi de nombreux essais à l'aquarelle, une technique qu'elle avait beaucoup admirée chez Turner, notamment dans les œuvres vénitiennes de ce peintre. Apprenant que Degas, qui avait pratiquement perdu la vue à la fin de sa vie, avait alors réalisé ses plus belles danseuses au pastel, elle se lança dans ce nouveau défi. Malheureusement, là encore, elle déchira presque toute la série. Au-delà du miroir, pastel 1977-1979. Un profil ravissant échappa à la destruction. Esquissé dans l'ovale d'une glace, il est encadré de crans réguliers, mordus par un peigne en écaille. Mais la douceur n'est qu'apparente, car des objets menaçants, aléatoirement juxtaposés, flottent autour du contour imprécis du visage. Ciseaux, couteaux, aiguilles à tricoter, lime. On ne sait pas si ces instruments sont réels ou simplement imaginés par la jeune femme dont le regard se perd dans le reflet du miroir. Le dernier chef-d'œuvre connu de Lucie M. est L'Archange dans le soleil, pastel 1982, acheté en 1992 par le Musée national d'art moderne, centre Georges Pompidou. Une allusion, très certainement, à l'ange dans le soleil que Turner avait peint quelques 130 années auparavant. L'archange se dresse sur un lit de nuages, un lit clairement évoqué par des montants à tubulure de cuivre. Il brandit un glaive, mais son arme est un sexe en pleine érection. Sous la couche, deux petites formes se serrent l'une contre l'autre, en signe de désarroi. Le ciel est parmi les plus beaux jamais réalisés par l'artiste. Tout un nuancier de blanc vaporeux forme un violent contraste avec l'ombre dans laquelle se dissimule le visage de l'archange et sa virilité insolente. Lucie M. a sans doute voulu livrer, dans cette œuvre ultime, la somme de sa trajectoire artistique et de sa vie de femme. On peut paraphraser, à son sujet, Gaston Bachelard. Elle a pris le chemin difficile qui permet aux rêves les plus puissants et les plus dynamiques, cachés derrière nos yeux, de nous aider à découvrir notre vie invisible dans toute son intimité.
De Michael à Claire, samedi 8 février 2003, à 22h51. Sujet, jargon.
Claire Darling, lorsque Dad m'a demandé d'accueillir Tante Lucie dans la clinique où j'étais alors assistant en psychiatrie, j'ai posé plusieurs préalables. Pour des raisons d'éthique professionnelle, il était exclu que je prenne son cas en charge moi-même. Nous devions établir un sas étanche entre elle et sa famille française, pour qu'aucune perturbation extérieure n'entrave son traitement. Ces médecins devaient recevoir un maximum d'informations sur leur patiente afin de mieux comprendre les troubles dont elle souffrait et de lui donner les meilleurs soins. Dad est venu à Paris vous exposer ses conditions. Rappelle-toi vos discussions. Son dernier argument a été « Je dois tenir une double promesse ». C'est sans doute cette phrase simple qui a permis de combattre les réticences de Zurbaran et d'emporter son adhésion. Le travail des médecins du Baltimore Psychiatric Hospital a été long et leur diagnostic complexe. Tu m'as fait un immense cinéma au sujet des psychiatres américains, me culpabilisant d'avoir livré ta mère, ton idole, à des étrangers qui la considéraient, pensais-tu, comme un cas parmi d'autres. Tu as voulu la revoir, lui parler, quitte à être à nouveau repoussé par elle. Que comprenais-tu alors de notre jargon ? Troubles schizophréniques, dédoublement de la personnalité, désordre de l'affectivité, délire obsessionnel, hallucinations, anomalies morphologiques, automutilation suicidaire et fantasmes sexuels, dévaluation de l'identité et atrophie du sentiment maternel et j'en passe. Pour toi, l'essentiel était de voir cette œuvre géniale éclore sous le pinceau maternel. C'était mieux que les caresses que tu n'as jamais reçues. Incapable toi-même de tenir un crayon, tu t'es lancé dans des études d'histoire de l'art, de l'antiquité et des mythes bibliques. Quelle plus belle preuve d'amour filial que de vouloir comprendre l'incompréhensible. Durant toutes les premières années, nos thérapies les plus au point ont permis d'atténuer certains troubles psychotiques de ta maman, sans vraiment les éradiquer tous. Quant à l'emploi des neuroleptiques, ils ont calmé ses excès et soulagé ses angoisses et ses souffrances. Mais les progrès les plus spectaculaires sont récents. Elle les doit à deux personnes, à tante Sarah et à toi. Nous lui avons fait lire en parallèle et au fur et à mesure de vos rédactions respectives, Jeu d'ombre et l'œil dans tous ses états. Et c'est comme si le soleil, ce soleil qu'elle voulait regarder en face et qui a brûlé la rétine de son œil valide, se levait à nouveau pour elle, comme si un voile s'était déchiré. Comme si, en s'ouvrant, la porte magique avait révélé plus que des ruisseaux aux flots d'argent et des pluies de lingots d'or. Sur son tourniquet magique, elle voyait enfin la tendresse que lui avait portée sa sœur, l'amour que lui vouait sa fille, la double passion enfin qui avait déchiré le cœur de Dad et dont nous étions, toi et moi, les fruits. J'ai bien reçu le carton d'invitation au vernissage de la rétrospective Lucie M. Je viendrai à Paris, car pour rien au monde je ne voudrais rater cet événement. J'espère pouvoir te réserver une surprise ce jour-là. Ton Mike.
De Claire à Michael, jeudi 27 février 2003, à 3h41. Objet, le Saint-Esprit. Fichier joint. Jeu d'ombre 24 à 26.
La pilule est forte à avaler. Je ne sais s'il faut en rire ou en pleurer. C'est à croire que vous vous êtes donné le mot, tante Sarah et toi. Tu me sers des boniments sur la schizophrénie et le dédoublement de la personnalité. Merci. J'étais déjà au parfum grâce aux leçons des chairs. La dualité. La porte magique ouverte ou fermée. Le blanc et le noir, l'eau et le feu, le jour et la nuit, le bien et le mal. J'ai donné. Quant à tante Sarah, à quoi joue-t-elle ? Aux apprentis sorciers ? Au Deus ex machina ? Est-elle une adepte des électrochocs, comme les toubibs des années 50 ? Veut-elle me traumatiser à vie ? La manière dont elle raconte le jour du mariage de tes parents est, ma foi, du grand comique, de la plus pure comédia dell'arte. Pour le lecteur peut-être, mais guère pour les intéressés. Et je me compte parmi elles. Cela dit, si je tente d'interpréter ces racontars, je vais les résumer ainsi. Claire Tourbarian aurait été conçue sur un rocher et son père génétique serait au choix le Saint-Esprit déguisé en pêcheur de grenouilles, l'archange Raphaël ou Toby le guérisseur, le bourreau musclé des deux saintes, Lucie et Agathe, un rital séduisant et inconstant qui allait épouser le jour même la sœur de sa mère, ça se complique. Un ophtalmologue mondialement connu pour ses travaux sur la rétine artificielle. Ulysse accroché aux mamelles d'une brebis et fuyant la grotte du cyclope. Personne. Qui est mon père ? Personne. L'homme qui m'a donné son nom et son affection, que j'ai appelé papa durant 47 ans, n'est pas mon vrai père. La belle affaire. Tcho, frangin.
De Claire à Michael, jeudi 3 avril 2003, à 8h15. Objet, re le Saint-Esprit. Fichier joint, Lucie M. Introduction.
Hi, Mike. C'est pourtant lui, Zurbaran, qui a eu le mot de la fin. Il a supporté des semaines de fureur incontrôlée, de portes claquées, de cendriers pleins de clopes. Puis un soir, il m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai fini par tout lui cracher. Il m'a écouté attentivement, comme d'habitude. J'ai dégoisé sur maman, sur oncle Raphaël. Je ne puis me résoudre à l'appeler autrement. Sur toi et sur les psys. Je l'ai même accusé de faiblesse maladive, de complaisance malsaine, de lâcheté masochiste. Quand il a vu que plus rien ne sortait, il a eu ses paroles. Avec toute la tendresse que t'a donnée tante Agathe dans ton enfance, tu étais bien contente d'avoir une deuxième mère. Aujourd'hui, tu peux bien t'accommoder d'avoir un second père. Je n'ai pas eu autant de chance. Moi, j'ai dû partager avec lui toute ma vie. Dad a été pour Zurbaran rien d'autre que lui, sans prénom. Fut-il celui d'un archange. Tiens, je viens d'écrire tout naturellement Dad. Comment analysez-vous ce lapsus, docteur Freud? Après ce long discours, Zurbaran s'est tout de suite replongé dans son silence. Il avait oublié le meilleur argument. Dans ce bel imbroglio familial, j'ai gagné plus qu'un frère. Presque un jumeau. Ta sœur chérie, Clairette de Die. P.S. Tu vas pouvoir enfin donner plusieurs interprétations psychanalytiques à mon travail en lisant l'introduction de la monographie. Disons plutôt la géographie de Lucie M. J'ai écrit l'introduction une fois le travail terminé. Tu n'en seras pas étonné et n'y verras qu'une nouvelle preuve de mon esprit d'escalier.
Monographie de Lucie M. L'œil dans tous ses états. Introduction. Présentée au Palais de Tokyo du 10 avril au 30 juin 2003, la rétrospective Lucie M.
rend enfin hommage à une œuvre jugée jusqu'ici inclassable.
Précurseur dans de nombreux domaines, l'art hop, la technique des accumulations ou encore les projets d'emballage, Lucie M. ne peut être rattachée à aucun mouvement reconnu de l'art contemporain. Au cours de 25 ans de production ininterrompue, 1958-1983, l'artiste a développé une œuvre puissante et multiforme autour d'une thématique principale, l'œil et la vision, prétexte à une quête quasi obsessionnelle de la spatialité. Dotée d'une malformation oculaire congénitale, Lucie M. a donné de la perspective une interprétation personnelle et originale. Elle biaise avec les volumes, triche avec les profondeurs, brode avec les lignes, triomphe avec les couleurs, juxtaposant les symboles dans des élans oniriques qui l'entraînent vers l'infini et le mystique de l'invisible. Paradoxalement, la cohérence de l'œuvre repose sur des ruptures fulgurantes, où se côtoient l'humour et la tragédie, le profane et le sacré. Épilogue. Ils avaient décidé de se retrouver, une heure avant le vernissage, au palais de Tokyo, dans le bar d'un grand hôtel de la rive droite. Claire était la première au rendez-vous. Elle venait de donner une interview sur la rétrospective de Lucie M., 1958-1983, et se sentait très nerveuse à l'idée de revoir, côte à côte, tous les acteurs de sa vie passée. Raphaël était arrivé en fin de matinée. Il la prit dans ses bras, et elle fut immergée, malgré elle, dans un nuage poivré d'égoïste de Chanel. Quand il eut desserré son étreinte, elle remarqua que sa chevelure était toujours aussi abondante et en désordre, mais qu'elle était désormais entièrement blanche. Zurbaran s'était proposé pour aller chercher Sarah à la gare de Lyon. Quand ils pénétrèrent dans le bar, Claire fut frappée par le couple insolite qu'ils formaient tous les deux. Lui, avec son visage émacié et son jean sans forme, entortillé autour de ses jambes immenses. Elle, minuscule et endimanchée dans une robe trop estivale pour la saison. Zurbaran posa la valise de Sarah près du fauteuil où était assise Claire. C'était une samsonite grise et fatiguée, sur laquelle étaient collées des étiquettes un peu jaunies, sans doute ramassées au cours de plusieurs voyages. Elle lut avec stupéfaction. Rome, Amsterdam, Londres, Lisbonne, Madagascar, Hawaï, le Caire, les îles Vierges. Les lieux où avait fui sa mère durant toute son enfance. Une question saugrenue fusa dans la tête de Claire. Tante Sarah n'a jamais voyagé. D'où sort-elle ce bagage d'homme d'affaires des années 70? Elle n'eut pas le temps de la poser à l'intéressée. Un deuxième couple apparaissait dans l'encadrement de la porte. L'homme, qui était-il désormais pour elle? Son cousin d'Amérique? Le complice de ses bavardages sur le web? Ou le frère jumeau de son enfance, et désormais de toujours? La femme à son bras, était-elle la petite, alias Louchette? Sa propre mère, à la fois aimée et détestée? Ou encore un peintre de renom, objet et sujet de son dernier travail? Car Lucie était de retour, droite, mince, le cheveu lissé comme autrefois sur son visage. L'œil gauche ne divaguait plus. Le strabisme avait été corrigé, mais le regard, toujours étrange, avait conservé sa fixité. À son hésitation pour s'asseoir, Claire s'aperçut qu'elle n'y voyait presque plus. Elle effleura de ses lèvres la joue plus duveteuse qu'autrefois. La main de sa mère tâta la valise, s'arrêtant sur les étiquettes collées. « Tiens, tu as emprunté la valise de Lino. Tu peux la garder. Nous ne nous en servirons plus, » dit-elle en s'adressant à Sarah. Puis, se tournant vers Zurbaran, dont elle avait décelé la présence silencieuse, elle lui dit « Je peindrai tant qu'il fera jour. » Claire sut alors qu'elle avait réuni au creux de sa main les fils du dialogue tissé avec Mike sur le net. Ceux autrefois entremêlés dans la toile d'araignée de la petite et ceux qui se rompaient sur le tricot d'agate assise à l'étendage. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, comme le jour et la nuit. Sarah V. Beaucèdre, décembre 2003.